L'histoire de l'évolution humaine retrace les différentes étapes qui ont permis à notre lignée d'aboutir à l'homme moderne. De nombreux fossiles découverts sur tous les continents ont dessiné peu à peu notre arbre évolutif avec les différentes espèces d'hominidés qui se sont succédées. La paléoanthropologie raconte cette histoire de nos origines en y incluant tous les membres de cette grande tribu. Une histoire agitée qui n'en finit pas de rebondir. Jean-Jacques Hublin est un des meilleurs spécialistes mondiaux de l'évolution humaine et il démarre aujourd'hui un cycle de cours au Collège de France sur la paléoanthropologie du genre Homo. Il est notre invité aujourd'hui, Jean-Jacques Hublin. Bonjour.
Bonjour Mathieu.
Bienvenue à vous. Juste après l'émission, vous allez donc filer au Collège de France pour donner votre leçon inaugurale afin de discuter donc des évolutions récentes dans votre domaine. Vous êtes paléoanthropologue et professeur d'anthropologie. Vous dirigez le département d'évolution humaine à l'Institut Max Planck de Leipzig en Allemagne. Et on va donc se retrouver, Jean-Jacques Hublin, dans quelques instants pour comprendre d'abord comment travaille un paléoanthropologue, comment vos techniques ont évolué afin d'étudier donc l'évolution humaine. Et puis on discutera en particulier d'un ancêtre comme Néandertal, avec beaucoup de questions qui arrivent déjà sur franceinter.fr et puis également sur les réseaux sociaux avec le hashtag LATAC. Et puis le quiz de l'émission, ce sera dans la dernière partie avec deux nouveaux candidats qui vont s'affronter. Violaine Ballet est aux commandes de cette Tête au Carré qui a été préparée aujourd'hui par Lucie Sarfati.
La Tête au Carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Bonjour Philippe Hénarejos.
Bonjour.
On parle avec vous aujourd'hui des prédictions d'une collision stellaire.
Oui, alors vous vous en souvenez peut-être, parce que j'en parle de manière chronique, enfin pour un chroniqueur c'est normal, vous direz, sur votre antenne. La dernière fois c'était le 28 janvier 2013. Eh bien en 2002, les astronomes ont observé un phénomène spectaculaire et bizarre dans la constellation de la Licorne. C'était en janvier 2002 et un astronome amateur venait de découvrir une étoile de plus dans la Licorne. Vous savez comme Tintin dans l'étoile mystérieuse, une étoile de plus dans la Grande Ourse. Eh bien les astronomes avaient d'abord pensé à une nova, c'est un phénomène connu, une étoile qui attire trop de gaz à sa surface et qui explose de temps en temps. Mais ça n'était pas ça. Et il aura fallu 2 ans pour que 2 astrophysiciens avancent une hypothèse qui se tienne pour expliquer ce qu'on avait vu, et c'était la collision de 2 étoiles.
Ouais, ça, c'est un phénomène fréquent ou pas ?
Non, c'était une première. Et c'est pour cela qu'on ne comprenait d'abord rien à cet astre étrange qu'on avait appelé V pour variable, donc V838 de la Licorne.
Pourquoi vous revenez là-dessus aujourd'hui, Philippe ?
Eh bien, ce n'est pas uniquement parce que j'ai suivi toute l'histoire et qu'elle me passionne depuis le début. C'est parce que fin septembre, une équipe d'astronomes européens, et surtout des Français d'ailleurs, a publié un résultat concernant V838 de la Licorne. Avec le VLTI, le plus puissant interféromètre du monde, ces astronomes ont observé l'astre qui subsiste à l'endroit où s'est produit le choc frontal entre ces 2 étoiles vues il y a 12 ans.
Un interféromètre, hein, c'est ça ? Qu'est-ce que c'est exactement ?
Alors pour faire simple, c'est un ensemble de télescopes dont on réunit les faisceaux lumineux en un même point. Et par ce procédé très difficile à mettre en œuvre et en même temps très compliqué, on obtient un télescope virtuel géant. Si, par exemple, vos télescopes sont séparés de 80 mètres l'un de l'autre, eh bien, vous obtenez la puissance en termes de finesse d'image, en termes de capacité à voir des détails, d'un télescope de 80 mètres de diamètre. Donc, grâce à cet interféromètre européen, ces chercheurs ont pu voir qu'autour de cet astre résiduel qui est situé à 18 000 années-lumière, quand même, c'est loin, s'était formé un anneau de gaz et de poussière. Donc. Et ils ont même estimé le diamètre de ce disque, 800 fois la distance qui sépare la Terre du Soleil. Wow. Alors, conversion en kilomètres, c'est 120 milliards de kilomètres.
Ouais. Hein. Qu'est-ce que nous apprend cet anneau, justement, Philippe ?
Eh bien, tout simplement que les 2 astrophysiciens qui avaient fait l'hypothèse d'une collision d'étoiles, l'Israélien Noam Soker et le Polonais Romuald Tilenda, avaient fait de la bonne science. C'est-à-dire que des observations faites à l'époque, ils avaient conclu à la collision d'étoiles, en fonction de ce qu'ils voyaient. Mais ils avaient aussi fait des prédictions sur ce qui devait se passer ensuite, et sur ce qu'on devrait observer si leur théorie était bonne. Parmi ces prédictions, il y avait la formation d'un anneau de gaz et de poussière en expansion. Alors, sa découverte montre qu'ils avaient raison, et la mesure de son diamètre montre qu'il a bien été en expansion à la vitesse prédite aux alentours de 200 km/s, d'où sa taille aujourd'hui. Alors, l'interféromètre a aussi montré que l'étoile, qui s'est formée par la fusion de 2 étoiles, il y a eu choc, mais il y a eu une étoile plus grosse qui s'est formée, avait diminué de taille d'environ 40% depuis 2004, c'est date à laquelle il y avait eu des précédentes observations avec un interféromètre, une autre prédiction qui se confirme.
Est-ce qu'il y a d'autres succès de cette théorie, Philippe ?
Oui, Soker et Tilenda disaient qu'il doit y avoir une troisième étoile dans le cou, un système triple si vous préférez. Et l'interféromètre ne l'a pas vu. Alors, selon l'un des chercheurs que j'ai eu récemment, elle se trouve dans le disque de poussière et reste masquée. C'est pour ça qu'on ne la voit pas. Mais elle a été observée par d'autres moyens, en spectroscopie, on a vu sa lumière. Donc tout ça pour vous dire que là, c'est un exemple, une belle histoire de bonne science. Des observations naît une théorie, de la théorie une prédiction, qui finalement est confirmée par l'observation.
Et on aime les belles histoires, absolument, comme toutes celles que vous nous racontez le mercredi autour du ciel et de l'espace. Jean-Jacques Hublin, je sais que vous vous intéressez également à l'astronomie, pas seulement aux origines de l'homme. Est-ce qu'on sait si Néandertal, tient par exemple, s'intéressait au cosmos ?
Ah, il s'intéressait sûrement au ciel qui était au-dessus de sa tête, mais il ne nous en a guère laissé de représentation. D'ailleurs, il n'a pas laissé de représentation.
Oui, c'est ça, parce que le guerre laissait entendre qu'il y en avait, mais il n'y en a pas du tout, en fait.
Hein. Oui.
Ouais. Merci beaucoup, Philippe Hénarejos. On se retrouve la semaine prochaine. Et donc, dans un instant, nous allons explorer précisément nos origines humaines à l'occasion, Jean-Jacques Hublin, de votre arrivée au Collège de France cet après-midi.
Jamais pensé y planter mes dents jusqu'à enseigner.
À l'attaque, et c'est mieux sec sur France Inter.
La tête au carré, l'actualité des sciences sur France Inter.
Jean-Jacques Hublin, vous êtes l'invité de l'émission cet après-midi pour parler d'abord de votre discipline, la paléo-anthropologie, pour comprendre l'évolution humaine et puis bien sûr pour commenter des découvertes assez récentes toujours au sujet de Néandertal et puis pour parler de votre cycle de cours au Collège de France puisque vous donnez votre leçon inaugurale dans maintenant un petit peu moins de deux heures. Les auditeurs nous rejoignent avec les messages franceinter.fr et le hashtag LATAC, la leçon inaugurale. C'est quand même un moment particulier dans la vie d'un scientifique, Jean-Jacques Hublin. Vous allez donc inaugurer cette série de cours. Qu'est-ce que vous avez prévu de raconter au public ? Comment on travaille sur une leçon comme ça ?
Bien, c'est un peu quand même j'allais dire impressionnant. Je vais être devant mes collègues, mes pairs, et puis des gens qui me sont chers. C'est une leçon qu'on prépare plus que les autres.
Hein. Ouais.
Et l'idée, c'est quand même de présenter, une profession de foi, mais un panorama à la fois de ce qui a été accompli dans la discipline et de ce qui reste à faire, et évidemment ce qui va être présenté dans les enseignements dans les années qui viennent.
Une profession de foi, dites-vous ? En quoi vous croyez ?
Un petit peu. Ah, moi, ce que je crois, c'est que il y a une autre façon de faire de la paléo-anthropologie, et l'idée de ce cours, justement, c'est une idée d'intégration de différentes disciplines, pas seulement étudier l'anatomie des fossiles, mais aussi regarder les comportements des hommes, les industries qu'ils ont produites, et puis aussi se servir de l'apport de disciplines qui étaient des disciplines étrangères il y a encore peu de temps. Je pense en particulier à la primatologie, à la psychologie expérimentale. Et puis, alors maintenant, on a évidemment tout ce qui est biologie moléculaire, génétique, qui envahit un petit peu le domaine. Et donc, c'est une intégration de tous ces éléments.
Qui envahit, qui complète, on pourrait dire, hein, parce qu'évidemment, toutes ces disciplines travaillent les unes avec les autres pour permettre de mieux dessiner encore l'histoire de nos origines, d'ailleurs. Hein.
Mais elles ont longtemps travaillé de façon complètement indépendante. Mmh. C'est un petit peu... Moi, je fais de la collection de timbres, toi, tu fais de la collection de pièces de monnaie. Mais évidemment, les timbres et les pièces de monnaie...
ont des choses à se dire.
Des choses à se dire. Ouais. Et on est dans une phase très, très intéressante de ces études sur l'évolution. Parce que justement, on confronte les résultats de toutes ces disciplines. Et il faut bien trouver un scénario évolutif qui rend compte de tous ces résultats.
Ouais. Paléoanthropologie du genre homo. Donc ça, c'est vraiment le titre de ce cycle de conférences au Collège de France. C'est-à-dire que là, on va jusqu'à 2 millions d'années, c'est ça en arrière,
hein? Oui, 2 millions et demi.
Ouais. Donc c'est-à-dire que vous amputez quand même une grande partie de l'histoire de la lignée humaine, non ?
Mais au Collège de France, on est censé ne jamais donner deux fois la même conférence. Hein, et donc, les cours sont quand même relativement, détaillés, spécialisés sur un sujet bien défini. Et il m'a semblé que ces deux derniers millions d'années, qui en gros correspondent à la période durant laquelle les hommes ont commencé à coloniser le monde en dehors d'Afrique... C'était par là qu'il fallait commencer, par la fin.
Ouais. Sommes-nous des descendants des Australopithèques, demande Jean-Paul, et quels sont les ancêtres des hommes ? Alors, on ne va pas faire toute la liste, parce que la tribu est quand même assez nombreuse, mais on peut déjà dire si effectivement on fait partie de cette famille des Australopithèques.
Alors, le genre homo...
Antérieur au genre homo ?
Le genre homo, donc, on le connaît depuis environ 2,5 millions d'années en Afrique. Et avant lui, ce qu'on connaît, c'est uniquement des Australopithèques. Et donc, ce qui est quasiment accepté par tous les chercheurs, c'est qu'il y a un enracinement de ce genre homo au sein de certaines espèces d'Australopithèques. Cela étant dit, la façon dont ça se passe est un petit peu mystérieuse pour l'instant. C'est-à-dire qu'en Afrique de l'Est, où on trouve les plus anciens représentants du genre homo, on n'a pas vraiment de candidat local au sein des Australopithèques qui est vraiment convaincant.
Oui, donc il faut aller où pour en trouver, en l'occurrence ?
Ah, ça c'est une question très, très importante. Moi, je crois qu'il faut aller partout. Il faut aller partout en Afrique. Et c'est vrai que l'image que nous avons de l'évolution humaine en Afrique est en grande partie biaisée par le fait que c'est seulement dans certaines régions que des sites de différentes époques se sont conservés. Donc, il y a, j'allais dire, un poids très important de l'Afrique de l'Est. Oui. Mais comme Michel Brunet l'a montré, Tchad,
avec Toumaï,
qui est très loin, livre aussi des restes très anciens.
Oui.
Et puis, alors, surtout, maintenant, ça devient très difficile d'aller sur le terrain dans beaucoup de pays d'Afrique.
Pour des conditions
pour des raisons
politiques.
Purement, logistiques, politiques. Et donc, il y a un peu un effet de... En anglais, on appelle ça « streetlight effect ». C'est l'histoire de l'homme ivre qui cherche ses clés sous la lumière d'un réverbère. Et on lui demande pourquoi il les cherche là. Il dit « parce qu'ailleurs, je ne vois rien ». Et donc, on a tendance un peu à chercher là où on peut. Et on trouve là où on cherche.
Michel Brunet et Yves Coppens, d'ailleurs, qui seront nos invités lundi prochain. Mmh. On en discutera avec eux, puisque les Australopithèques, ben, ça fait partie de leur grande découverte, hein, Toumaï et Lucie. Et là, ça nous renvoie assez loin, hein, en nombre de millions d'années, alors.
Ah oui, Toumaï, on s'approche des 7 millions d'années, donc on est très près de la divergence supposée entre les ancêtres des chimpanzés et les ancêtres des hommes.
Gilles demande d'où vient ce nom de Néandertal, alors, puisqu'on va beaucoup en parler ensemble.
Alors Néandertal, Tal en allemand, j'ai appris l'allemand, Tal en allemand, ça veut dire vallée, et donc c'est une petite vallée qui est près de Düsseldorf. Et le néander qu'on a adjoint à Tal, c'est une forme un peu gréquisée du nom d'une célébrité locale qui s'appelait Neumann. Et donc pour l'honorer, on a créé ce terme de Néandertal.
Est-ce que c'est le premier endroit où on ait trouvé justement des fossiles de Néandertal ?
Absolument. Donc en 1856, dans une petite grotte qui s'appelle Feldhofer, des carriers qui en fait démolissaient le calcaire du coin ont vidé une grotte. Et c'est un instituteur local qui a recueilli des ossements qui étaient très bizarres. Et ces ossements sont les ossements du premier homme fossile qui a été, non pas découvert, on l'a probablement découvert avant, mais qui a été découvert et reconnu comme tel. Alors pas tout de suite, il y a eu un débat qui a duré assez longtemps, mais c'est le premier homme fossile.
Ouais. Où est-ce qu'il se trouve aujourd'hui ?
Alors, il se trouve en Allemagne, au musée de Bonn.
Ouais. C'est un trésor national.
Oui, c'est le problème des fossiles, justement.
Hein, c'est un intouchable, quasiment.
Ils deviennent des intouchables.
Ouais. Vous avez réussi à travailler dessus ou pas, justement, puisque vous êtes, je le rappelle, à l'Institut Max Planck, où vous avez la chance de pouvoir avoir de très beaux fossiles de Néandertal, mais pas seulement. Alors, un fossile comme celui-là, est-ce qu'on peut véritablement faire des études, s'approcher de lui de plus près ?
Alors, à l'Institut Max Planck, nous n'avons pas de fossiles. Enfin, on en parlera tout à l'heure, peut-être. On a des avatars de fossiles, ouais. des copies virtuelles de fossiles. En fait, la calotte crânienne et les ossements associés de Néandertal, j'ose à peine dire quand j'ai travaillé dessus, parce que j'étais encore étudiant en thèse à Paris. Et donc, voilà, c'est dans des années qui commencent en 1900 quelque chose. Mmh. J'ai eu la chance, étant étudiant, d'être autorisé à travailler sur ce spécimen, et j'ai encore des photos de l'époque.
Oui. On peut encore travailler dessus aujourd'hui, où il est extrêmement protégé ?
Bien, les fossiles humains très rares sont toujours très protégés. Parfois même, je l'ai dit, c'est un problème, parce que on aimerait bien faire d'autres études que celles qui ont été faites jadis. Nous avons eu à Leipzig du matériel de Feldhofer qui est venu. Pourquoi ? Parce qu'on a des méthodes d'études aujourd'hui qui n'existaient pas il y a seulement 10 ou 20 ans. Et donc, nos collègues de Bonn, je pense en particulier au docteur Ralf Schmidt, veut absolument que l'on exploite au maximum ces restes en appliquant toutes les méthodes nouvelles qui apparaissent. Mmh. Et donc, ce n'est pas parce qu'un fossile rentre dans un musée qu'il devient un objet
qui se fossilise dans le
mort.
Musée. Voilà, justement. Jean-Paul demande, est-ce qu'on peut considérer les Néandertaliens comme les derniers humains archaïques ou comme les premiers hommes modernes ? Intéressant, hein, parce qu'effectivement...
Alors, ce qu'on appelle hommes modernes, en général, bien justement, ce ne sont pas les Néandertaliens, c'est-à-dire ce sont leurs cousins, qui ont évolué en Afrique, alors que les Néandertaliens évoluaient en Europe, en Asie. Et donc, on a deux branches qui ont évolué parallèlement, de part et d'autre de la Méditerranée. Et à un moment donné, ces hommes modernes se sont répandus hors d'Afrique et ont remplacé les Néandertaliens.
Et justement, c'est là aussi l'objet de recherches très importantes, qui sont très récentes, sur le croisement entre Néandertal et l'homme moderne. Frédéric demande, est-ce que vous pourriez nous préciser combien justement Néandertal et Sapiens ont de matériel génétique en commun ? Est-ce bien 99,5% ?
Alors ce chiffre de 99,5% ne veut pas dire grand-chose, parce que tous les mammifères ont de l'ADN en commun. Notre auditeur et une souris ont 80% de leur ADN en commun.
Voilà, il va être content de le savoir.
Pourtant, ils ne se ressemblent pas beaucoup.
Ils sont très
différents. Pourquoi ? Parce que tous les deux ont des yeux, des poils, des os, des muscles, et que tout ça, c'est codé un peu de la même façon chez les mammifères. Donc, en fait, ce qui nous intéresse, ce n'est pas tellement ce qui est commun, c'est ce qui est différent. Et il y a un certain nombre, on a identifié dans la partie codante de l'ADN, c'est-à-dire les gènes. Les gènes, ça ne représente en fait que 3% à peu près de l'ADN. Hein. Parmi ces gènes, on a identifié 87, je crois, mutations qui sont propres aux hommes modernes et qu'on ne trouve pas ni chez les Néandertaliens, ni chez d'autres formes anciennes comme les Denisoviens. Donc ce sont des mutations qui ont dû se produire dans cette lignée africaine qui s'est répandue partout.
Alors ça, on a pu le savoir avec le séquençage précisément du génome de Néandertal, opération très récente au fond, hein, Jean-Jacques Hublin, puisque les premiers résultats ont été transmis en 2011 à peu près, c'est ça, hein ?
Oui, mais alors ça n'arrête pas. Hein, le séquençage, j'allais dire, de très haute qualité, celui qui est presque aussi meilleur même que celui qu'on pourrait réaliser sur des hommes actuels, a été publié au début de l'année, hein, en 2014. Hein. Ce qu'il faut bien comprendre dans la réussite de ce projet, c'est que le coût du séquençage, le coût des équipements a chuté de façon absolument spectaculaire. Mm-hmm. Quand le génome humain a été séquencé, quand on a commencé à le faire il y a plus de 20 ans, on pensait que ça coûterait à peu près 3 ou 4 milliards de dollars. En réalité, ça a coûté un peu moins que ça. Et de nombreux laboratoires sont associés pour le faire. Quand le génome néandertalien a été séquencé, donc la même quantité d'ADN hein, pour un individu, ça a coûté moins de 1000 fois moins. Et aujourd'hui, on peut séquencer le génome d'un homme pour encore 1000 fois moins que ce qu'a coûté le génome de Néandertal. Donc, on est entré dans une phase complètement nouvelle de la génétique où de séquencer le génome nucléaire de nombreux individus, de nombreuses espèces animales, c'est quelque chose qu'on peut faire de façon, je dirais, routinière.
C'est compliqué, justement, de séquencer de l'ADN fossile. On se heurte à quel type de problème, alors, pour rester chez Néandertal ?
Eh bien, d'abord, il faut le trouver, l'ADN fossile. La plupart des os fossiles ne contiennent pas d'ADN, même pour des périodes relativement récentes. En moyenne, on a à peu près une chance de 1 sur 10 d'avoir de l'ADN fossile dans des restes de néandertaliens. Mmh. Et puis ensuite, évidemment, même quand il y a de l'ADN, il est fragmenté, il est abîmé, et certains sites, en général pour des raisons environnementales, hein, la température, les conditions de milieu, le pH, livrent de l'ADN très bien conservé. On a beaucoup parlé du site de Denisova en Sibérie, dans l'Altaï, parce que l'ADN est extrêmement bien conservé. Et donc là, évidemment, c'est beaucoup plus facile.
Jean-Jacques Hublin, paléoanthropologie du genre Homo, leçon inaugurale au Collège de France, donc à 17h cet après-midi, avant les prochains cours. Je crois que le prochain, ce sera mardi d'ailleurs.
La semaine prochaine.
Voilà, donc on peut s'inscrire et aller directement au Collège de France.
On n'a pas besoin de s'inscrire.
C'est gratuit. Collège de France. C'est ouvert à tout le monde.
C'est ouvert à tous.
Et on peut suivre les cours aussi sur Internet.
C'est un des principes du Collège de France fondateur. Et je trouve ce qui est formidable, c'est que cette mission d'enseignement de haut niveau pour un public très large, maintenant est rempli d'une façon tout à fait spectaculaire, avec la mise en ligne des cours en français, en anglais. Et on m'a dit qu'il y avait eu, je crois l'année dernière, 22 millions d'heures de cours téléchargées. Je trouve ça formidable.
Vous restez avec nous, Jean-Jacques Hublin.
You don't have to tell me. You don't have to tell me what I have to do. You don't have to tell me. You don't have to tell me who I have to be. I'm free to live. I'm free to live and love. I'm free to give. I'm free to say goodbye. No one.
sing for you. Oh, you want to sing for me. Don't try to make me change. Don't try to make me bend. Oh, you want to sing for me.
You better get something straight. I've been living all these years by myself. Sometimes it hurts so badly. We got handkerchiefs. I can't really figure out how it all went wrong. I wish I knew what bliss is. I wish I knew. Don't want to sing for them. Don't want to sing for you. Only want to sing for me. Don't try to make me change. Don't try to make me bend. Only want to sing for me. It's hard to live. It's hard to live and love. It's hard to give. It's hard to say goodbye. Sing for them, don't want to sing for you, only want to sing for me. Don't try to make me change, don't try to make me bend, only want to sing for me.
You don't have to tell me slow, Joe.
La tête au carré, jusqu'à 15h, sur France Inter.
Jean-Jacques Hublin passe par la tête au carré avant de filer au Collège de France, donc pour sa leçon inaugurale dans quelques minutes, ce sera à 17h, et avant donc un cycle de cours qui va démarrer mardi prochain. Vous êtes paléo-anthropologue, vous travaillez donc en Allemagne, à l'Institut Max Planck de Leipzig, institut d'anthropologie évolutionniste où beaucoup de disciplines se croisent, hein, Jean-Jacques Hublin, à la fois la linguistique, la psychologie, la génétique, l'anthropologie donc évidemment.
La primatologie.
Primatologie. Dans le domaine de la psychologie, qu'est-ce qu'on fait autour justement de cette recherche?
On fait de la psychologie expérimentale en fait, c'est-à-dire qu'on met des grands singes, il y a un très grand centre de primatologie au zoo de Leipzig, on met des grands singes en situation de réagir, alors on les force pas, hein, on les habitue, on les place devant des dilemmes où il faut qu'ils collaborent par exemple pour acquérir la nourriture ou qu'ils répondent à un certain nombre de tests. Et puis parallèlement à ça, mes collègues du laboratoire de Mike Tomasello mènent le même genre d'expérience avec des jeunes enfants. Et ce qui est intéressant...
Qui eux sont en liberté, évidemment.
Oui, enfin, ils sont à peine plus en liberté que les grands singes, en fait.
Au moment où on fait les expériences, c'est tout.
Et donc ce qui est très intéressant, c'est de voir ce que font les hommes et que les grands singes ne font pas. Notamment, je parlais tout à l'heure de collaboration, de partage, de choses comme ça. Et puis aussi, au cours du développement individuel, hein, de l'enfance, à quel moment sont acquises un certain nombre de capacités, hein, ou des comportements qui sont typiquement humains.
Ouais. Qu'est-ce qui nous sépare fondamentalement, d'ailleurs, entre nous et les autres primates, donc les grands singes? Est-ce que c'est l'évolution de notre cerveau?
Ah oui, on a développé un cerveau qui, en gros, est de 3 à 4 fois la taille, qui a à peu près 3 ou 4 fois la taille qu'un grand singe de notre taille devrait avoir. Mmh. Donc on a un très très gros cerveau. Ce très gros cerveau nous a permis de développer une technologie, mais aussi et surtout une complexité sociale, comportementale, que n'ont pas les grands singes.
Ouais. Avec la plasticité du cerveau qui, chez l'homme, en tout cas, continue quasiment toute sa vie, d'ailleurs.
Ce qui est très particulier avec la croissance du cerveau humain, c'est que ce gros cerveau, c'est un cerveau qui est très coûteux en énergie. Et donc, pour pouvoir se l'offrir, si je peux dire, il a fallu retarder son développement le plus possible. Et c'est un petit peu comme l'achat d'un pavillon à crédit, hein. Donc, on a retardé, après la naissance, la croissance des trois quarts du cerveau sur 5 ou 6 ans.
Mmh. Donc, on peut payer tous les mois.
On paye moins de mensualités.
On peut changer les mensualités, voilà. D'ailleurs.
Et finalement, on a une maison plus grande et on a un cerveau plus grand.
Donc, ce qui n'est pas le cas chez le grand singe, par exemple. Il n'y a pas cette plasticité du cerveau.
Un macaque paye son cerveau cash.
Dès la naissance.
À la naissance, il en a 70%. Nous, on en a à peu près 25%. Mmh. Mais du coup, son cerveau a beaucoup moins de chances de pouvoir se modifier, si je peux dire, dans l'année qui va suivre. Alors que chez les hommes, le cerveau continue à se développer pendant plusieurs années, mais surtout sa structuration, son câblage, continue en fait très très longtemps. Les adolescents nous paraissent un peu bizarres parfois, parce qu'ils sont bizarres. C'est-à-dire que leur cerveau n'est pas complètement fini. C'est vraiment dans le début de l'âge adulte que les dernières, touches sont mises à cette structuration du cerveau.
Donc, si vous trouvez votre adolescent bizarre, c'est pensez normal. À la plasticité de son cerveau et vous serez rassuré. Oui, donc, oui. Ça ira mieux plus tard. Justine nous dit ceci sur franceinter.fr. C'est une question. Suite à votre remarque, Jean-Jacques Hublin, sur l'éclairage du lampadaire, est-ce qu'on peut penser que l'homme est apparu dans d'autres points du globe terrestre, Asie ou Amérique, aux mêmes périodes?
On y a rêvé, si je peux dire. On y a pensé et on se donne beaucoup de mal dans certaines régions, en Europe,
pour
en
trouver.
Chine, par exemple, pour trouver.
La preuve.
Pour l'instant, rien de semblable n'est apparu. Donc, entre, disons, 7 millions d'années et 2 millions d'années, c'est très long, tous les races d'hominines que l'on a découverts sont tous en Afrique.
Oui.
Et c'est seulement à partir de 1,8 million d'années que l'on commence à trouver des choses hors d'Afrique.
Comment on explique d'ailleurs ce berceau africain exactement? Et pourquoi uniquement en Afrique et pas ailleurs?
Eh bien, en fait, c'est parce que la super famille de grands singes auxquels on appartient a connu une histoire assez complexe. Elle était présente à la fois en Eurasie et en Afrique. Et pour des raisons qui tiennent en grande partie au changement de climat, au changement de paysage, eh bien, deux branches se sont séparées. Une branche asiatique qui a donné les orang-outans et une branche africaine qui a donné les chimpanzés, les gorilles et les hommes, du moins leurs ancêtres, qui s'enracinent proches des chimpanzés. Alors c'est un petit peu du hasard, mais voilà, il s'est trouvé qu'en Afrique, le pitch initial a été donné à cette évolution.
Cette question de Sophie sur la question de la race humaine, est-ce que Néandertal est une race humaine et pouvez-vous nous définir le terme de race en expliquant ce qui diffère entre Homo sapiens, nous et Néandertal?
Alors race, on sait pas très bien ce que ça veut dire.
On sait de moins en moins d'ailleurs ce que ça veut dire.
Quand il s'agit des hommes, et évidemment c'est un terme qui est très très connoté du point de vue politique, idéologique. Ce que l'on peut dire, c'est que dans la nature actuelle, sur la Terre aujourd'hui, il n'y a pas des groupes d'hommes qui sont séparés de façon étanche et qu'on pourrait facilement différencier comme on l'a cru autrefois. Donc on a un continuum génétique entre toutes ces populations. Et la variabilité à l'intérieur d'une population est beaucoup plus grande que la variation entre populations. Alors, ce qu'il faut bien comprendre quand même, c'est que la différence qu'il y a entre un homme de Néandertal et nous est d'un autre ordre de grandeur que toutes les différences qu'on peut observer entre des individus modernes actuels. Donc les hommes actuels, c'est une espèce qui est très homogène, qui a une origine commune récente. Et les Néandertaliens, eux, se sont séparés de notre groupe il y a au moins 1,5 million d'années. Mmh. Et donc, ils ont eu le temps d'évoluer, j'allais dire, de leur côté et de développer des caractères tout à fait originaux qui ne sont pas dans la variation moderne du tout.
On parlait du séquençage, justement, du génome de Néandertal, de l'hybridation entre Néandertal et l'homme moderne. On va écouter un de vos collègues, Svante Pebe, qui travaille aussi à Max Planck et qui signe régulièrement des publications autour de la génétique de Néandertal. Voilà ce qu'il disait, justement, de l'hybridation.
Je me fiche de savoir qui a couché avec qui il y a 30 ou 40 000 ans. C'est leur problème. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir si ça a une incidence aujourd'hui. Si on s'intéresse au génome de Néandertal, ce n'est pas tant pour Néandertal lui-même, mais plutôt pour mieux connaître notre propre histoire, celle de l'homme moderne.
Jean-Jacques Hublin, vous êtes d'accord avec
Zante, qui est un ami et que je vois très régulièrement à Leipzig.
Quand il parle de l'influence, alors voilà, ce qui nous intéresse, c'est de connaître l'influence de Néandertal sur l'homme moderne.
C'est pas exactement ce qu'il dit en fait. Ce qu'il nous dit, c'est que jusqu'à une période récente, le seul point de comparaison pour le génome humain, c'était le chimpanzé. Donc on avait le génome humain, le génome du chimpanzé, et on pouvait essayer de trouver des différences. Le problème, c'est que ces différences, on ne savait pas très bien quand elles étaient apparues au cours de notre évolution, puisque chimpanzés et hommes sont séparés depuis 6 ou 7 millions d'années au moins. Avec le génome de Néandertal, on a un point de comparaison beaucoup plus proche, puisqu'on a une séparation il y a seulement un demi-million d'années. Et donc là, on peut identifier des différences. Je parlais de 87 mutations. Tout à l'heure. Et ces mutations, on sait qu'elles sont arrivées très récemment. Elles sont arrivées depuis moins de 400 000 ans. Et donc là, ce sont vraiment des parties du génome qui ont été modifiées, qui conditionnent, j'allais dire, notre nature même d'homme moderne. Et cet homme moderne, c'est celui qui s'est répandu hors d'Afrique il y a au moins 50 000 ans et qui, on ne sait pas très bien pourquoi, mais a développé une organisation sociale, une technologie, des comportements nouveaux, et qui, en fait, a remplacé tout ce qu'il a rencontré sur son passage. Avant lui, il y avait différents groupes d'hominines qui vivaient dans différentes parties du globe. Depuis environ 30 000 ans, 40 000 ans, il y a un seul homme sur Terre. Et c'est une situation qui, nous paraît normale, mais qui est une situation complètement nouvelle à l'échelle des temps géologiques.
Voilà, donc la seule espèce, une situation très solitaire au fond. Nous vivons maintenant sur la planète.
Nous sommes une espèce orpheline, mais il faut dire que nous l'avons un peu mérité, parce que l'homme moderne a eu, sur l'environnement, sur la faune, sur les autres groupes humains archaïques, un effet quand même assez négatif.
Ouais. Est-ce qu'on peut imaginer justement que l'homme moderne, donc nous, on aurait fait la guerre à Néandertal par exemple? Est-ce que c'est un des scénarios possibles?
Alors c'est un scénario que beaucoup de mes collègues n'aiment pas évoquer, parce que ça nuit un peu à l'image de bon sauvage que l'on veut faire valoir à propos de nos ancêtres. Mais même si on n'en a pas des traces palpables, je ne doute pas qu'il y a eu des rencontres qui n'étaient pas toujours franchement amicales entre tous ces groupes.
Jean-Jacques Hublin, vous avez l'idée de créer des avatars numériques de fossiles. Donc on peut imaginer cela par exemple pour Néandertal. Ça, c'est vraiment une nouvelle façon de travailler aujourd'hui en paléoanthropologie?
Ah oui, complètement. L'accès aux fossiles, les originaux, c'est très compliqué. Et puis, ils sont fragiles, il faut les protéger. Quand on a commencé à pouvoir développer des techniques, en particulier la scanographie à rayon X, qui ont permis de créer des modèles virtuels, on s'est engouffré là-dedans. Et disons que la discipline s'est énormément développée dans cette direction depuis au moins une vingtaine d'années. Donc on est capable non seulement de visualiser des objets, mais on peut explorer leur structure interne. On peut aussi corriger des déformations, les reconstituer de façon virtuelle, ce qu'on ne peut pas faire sur l'original.
Des méthodes non invasives.
Voilà. Et puis aussi, on a des outils mathématiques qui nous permettent de simuler les changements de forme qu'on observe durant la croissance ou durant l'évolution d'un groupe. Donc c'est un matériau absolument extraordinaire pour faire de la recherche.
Donc ça veut dire que le fossile n'est plus le seul objet dont on dispose aujourd'hui pour étudier précisément l'évolution humaine?
En même temps, le fossile, l'original, sa substance même, reste quand même très, très, très important. Et en particulier, en parallèle avec cette paléanthropologie virtuelle, s'est développée une paléanthropologie qui s'intéresse essentiellement à des signaux chimiques, On a parlé de l'ADN ancien, mais on extrait aussi du collagène, des protéines. On regarde les rapports isotopiques de différents éléments. On regarde des éléments traces. Et à travers toutes ces analyses chimiques sur l'os lui-même, on obtient une foule d'informations sur le comportement des hommes dont on n'aurait pas rêvé du tout il y a 20 ans.
Jean-Jacques Hublin, très vite, parce qu'il nous reste 30 secondes. Le premier cours, mercredi 8 octobre, donc c'est aujourd'hui, biologie de la culture. Ça, c'est très important dans ce que vous racontez des origines humaines.
Je crois qu'on ne peut pas comprendre l'évolution humaine si on la considère uniquement sous un angle biologique ou sous un angle comportemental et culturel. Toute l'évolution humaine, c'est une interaction, en fait, entre une biologie tout à fait particulière, en particulier notamment la biologie de la croissance, du développement, et puis cette complexité technique et sociale que nous avons su créer.
Voilà, et c'est donc le titre de cette leçon inaugurale, Biologie de la culture, cet après-midi, 17h au Collège de France, avant une série de cours, donc mardi prochain. Tous les renseignements sont sur le site du Collège de France. Merci beaucoup d'être passé par la Tête au Carré, Jean-Jacques Hublin, cet après-midi, et bon retour donc à l'Institut Max Planck.
Merci. À bientôt.
Merci. Came from nowhere to St. Francis Street. Jukebox baby, I played a new beat. Cadillac came, watch for the heat. Jukebox baby. Little lady, it says my name. Jukebox baby, playing a strange game. Fly trumpet player, looking for fame. Jukebox baby, jukebox baby, jukebox baby, jukebox baby, jukebox baby, jukebox baby. Coming home to us where I stay. Oh, jukebox baby, playing Johnny Ray. Hotshot gambler looking for play. Jukebox baby, jukebox baby, jukebox baby, jukebox baby, jukebox baby, jukebox baby. Electron woman, jukebox baby, playing number four. Avenging angel, defeating the poor. Jukebox baby, jukebox baby, jukebox baby, jukebox baby, jukebox baby, jukebox baby. Jukebox baby, playing no fun. American soldiers are on the run. Jukebox baby, jukebox baby, jukebox baby, jukebox baby, jukebox baby, jukebox baby. Jukebox Babe, Alan Vega sur France Inter. Et c'est l'heure de tester vos connaissances scientifiques avec le quiz de la tête au carré et la princesse Léa de notre émission. Voilà, Florence Porcel, bonjour. C'est à cause de la coiffure, hein, quasiment.
Ah, c'est ça, presque, ça vous va presque bien macarons.
Voilà, les petits macarons sur les côtés, c'est très très joli. On accueille deux nouveaux auditeurs aujourd'hui.
Bonjour Dorothée et Étienne.
Bonjour.
Bonjour à tous les deux. Et je crois savoir que vous avez un point commun. Vous êtes tous les deux des jeunes parents. Est-ce exact, Dorothée ?
Oui, oui, j'ai une fille de 2 mois.
Voilà. Et Étienne, de votre côté ?
Et moi, j'ai un petit garçon de quelques jours, parce que c'était le 1er octobre.
Eh bien voilà, on est ravis de vous avoir aujourd'hui. Dorothée, vous habitez à Pagny-sur-Moselle, hein. C'est pas très loin de Nancy ?
Oui, c'est ça.
Et vous êtes ingénieur de recherche, dans quel domaine exactement ?
En industrie pharmaceutique.
Et Étienne, vous êtes dessinateur à Lyon. Vous avez une spécialité là aussi ou pas ?
Je fais un peu de dessin de presse et surtout de la bande dessinée. Et puis je tiens le blog BD Comic Strip.
Ah, très bien, bravo.
Bah, bravo et félicitations.
On a eu l'occasion d'en parler dans l'émission déjà.
Bah oui.
Super.
Dorothée et Étienne, nous allons jouer dans un instant ensemble avec, entre autres cadeaux pour le gagnant, la boîte de jeu de la tête au carré, Florence.
Mais oui, c'est tout nouveau, ça vient de sortir. Alors c'est la boîte de jeu La tête au carré des éditions Marabout. 150 cartes réparties en 6 catégories pour jouer en famille ou entre amis. Et on ajoutera le livre 1001 idées qui ont changé le monde des éditions Flammarion, qui ira donc au gagnant.
Dorothée et Étienne, nous démarrons avec la question d'actualité au sujet des narvales. Mâles qui possèdent une défense unique. Vous les voyez bien, hein, ces animaux. Et les scientifiques ne savent pas vraiment à quoi sert cette défense. Mais récemment quand même, et c'était dans l'actualité, ils ont trouvé un lien entre la taille de cette défense et la taille d'un de ses organes. Quel est cet organe ? Vous avez 30 secondes pour nous donner votre proposition. Alors, Dorothée et Étienne.
Alors.
Un lien très précis entre la taille de cette défense et la taille d'un des organes. À quoi ça peut vous faire penser comme ça, spontanément ? Rien du tout, apparemment. Hein.
Non, le pénis, le cœur, les poumons.
Non.
On est un petit peu dans la région de la première proposition,
oui, voilà.
En tout cas.
Les testicules.
Les testicules, bonne réponse d'Étienne. Effectivement,
il s'agit des testicules. Hein. Des chercheurs ont mesuré sous toutes les coutures une centaine de narvals entre 1990 et 2008. Et ils ont clairement établi un lien entre la taille de la défense de l'animal et celui de ses testicules.
Eh ben,
or, voilà, plus la défense est longue, plus elle intéresse les femelles. Les scientifiques concluent donc dans un article paru dans la revue Marine Mammal Science que la défense est liée à sa fertilité. Ah. Chez les narvals, c'est donc bien la taille qui compte.
Voilà, et donc ça nous fait 10 points pour Étienne grâce aux testicules du narval.
Oui, exactement.
Voilà. Et on peut en voir un très très beau d'ailleurs, un narval au Muséum National d'Histoire Naturelle.
Ah,
oui, absolument, avec une défense magnifique. Les questions de rapidité, Dorothée et Étienne, vous connaissez maintenant le principe. Cette question que nous allons vous poser dans un instant, vous avez 1 minute 30 pour répondre. Si vous êtes en pleine forme et tout prêt à y aller, eh bien, nous allons lancer le chrono. Tout va bien ?
Oui.
Allez, on y va. Première question. De combien d'hémisphères est composé notre cerveau, s'il vous plaît ? Bonne réponse de Dorothée. Comment s'appelle le système de stockage à distance des données informatiques ?
Le cloud.
Le cloud, Étienne. Quelle est l'unité de mesure de l'intensité du courant électrique ?
Le Tesla.
Non.
L'ampère.
L'ampère, Étienne. Bonne réponse. Quel est le nom des grandes plumes rigides des ailes d'un oiseau ? Ça commence à se corser là, dans les questions, c'est normal.
Non.
Alors, le nom des grandes plumes rigides sur les ailes des oiseaux. Vous pouvez passer à la question suivante, hein, si vous le souhaitez.
Ouais.
Vous pouvez revenir après.
Allez,
cinquième question. Quel est le nom du robot phare de la société française Aldébaran Robotics, utilisé pour la recherche et l'enseignement ?
Mathilda, non ?
Non. On a souvent parlé de ce petit robot. On l'a même reçu dans la tête au carré une fois. Il a été...
Georges.
Non. Il a un petit prénom sympathique en 3 lettres. Je vous aide un petit peu.
Léo ?
Non. Mais on y est presque.
Luc ?
Non. Allez, on passe à la sixième question. Comment s'appelle le prestigieux prix qui récompense les œuvres de science-fiction de langue anglaise ? Oui, ça se corse. Hein.
Ouais.
On passe à la septième question. Comment appelle-t-on les spécialistes des fourmis ?
Les entomologues. Les...
Non, alors... Il faut préciser les choses. Non, non plus.
Non plus.
Alors, il s'agit des myrmécologues, les spécialistes des fourmis. Il fallait le savoir, ça vient du grec myrmex, hein, qui signifie fourmi.
Voilà.
Bon, c'était corsé, là. Hein.
C'était corsé cette semaine.
Alors, beaucoup de questions sans réponse. La quatrième, par exemple, quel est le nom des grandes plumes rigides des ailes d'un oiseau, Florence ?
C'était les rémiges. Voilà, qui sont essentielles pour qu'un oiseau puisse voler.
Vous connaissez certainement le petit robot de la société Aldébaran Robotics qui s'appelle Nao.
Ah,
ça vous dit quelque chose ?
Ouais.
Il n'est pas très grand, il fait 58 cm, mais il a déjà beaucoup de capacités intéressantes, entre autres pour l'enseignement. Et puis enfin, comment s'appelle le prestigieux prix qui récompense les œuvres de science-fiction de langue anglaise? Il fallait vraiment
c'est,
le savoir.
Oui, hein. C'est le prix Hugo, voilà. D'après Hugo Gernsback, le fondateur d'un des premiers magazines de science-fiction américain.
Et ça a été créé en 1953, voilà. Ça nous fait combien de points alors,
au
total?
Eh bien, ça nous fait au total 20 points pour Étienne et 5 pour Dorothée.
C'est le dernier moment de ce jeu avec le mot mystère. Vous connaissez là aussi le principe Dorothée et Étienne. Nous avons donné un mot juste avant l'antenne et il va falloir faire découvrir donc ce mot à votre adversaire. On commence avec qui, Florence?
Oh bah avec Dorothée.
Dorothée, 45 secondes pour faire découvrir ce mot à Étienne. On lance le chrono, vous êtes prête?
Oui.
Allez, c'est parti, bonne chance.
Alors, il s'agit de l'ensemble des réactions chimiques qui se déroulent dans notre corps, dans nos cellules. Par exemple, ça peut décrire la transformation des nutriments en d'autres molécules.
Ça, la digestion, ça non, non,
non.
Non, il y a aussi la production d'énergie par la dégradation d'autres molécules.
Le métabolisme. C'est
le métabolisme, Étienne, bravo, vous avez donné la bonne réponse. Très bonne définition de Dorothée.
Hein. Oui.
Il y avait quasiment tous les éléments pour découvrir le métabolisme, ce qui rapporte à nouveau 10 points.
10 points à nouveau pour Étienne.
À Étienne, qui est bien en avance,
bien en avance
dans notre jeu.
Oui.
Étienne, c'est à vous maintenant.
Oui. Alors moi, Dorothée, ça va être assez simple.
45 secondes, c'est parti.
Voilà. Voilà, il s'agit d'une figure géométrique qu'on exerçait souvent quand on était petit. À l'aide d'un compas, on part du début d'un cercle et on fait plein de courbes. Ça
Rosa.
Dessine... Voilà.
Oui. La rosace, voilà, c'est bien ce que vous nous avez proposé, Dorothée, et c'est une bonne réponse. Mais je crois, hélas, que ce ne sera pas suffisant pour prendre l'avantage.
Hélas, non, puisque vous avez 15 points, Dorothée, mais Étienne est toujours à 30. C'est donc Étienne qui remporte ce jeu. Toutes nos félicitations, Étienne.
Ben, merci beaucoup. Je suis super content d'avoir le jeu.
Voilà, vous allez découvrir donc la boîte de jeu de la tête au carré, qui est sortie là, il y a quelques jours à peine.
Hier, en fait.
Voilà, avec les 150 questions concoctées pour vous, et puis également un autre livre.
Et également le livre « 1001 idées qui ont changé le monde ». Des éditions Flammarion.
Merci infiniment tous les deux d'avoir joué avec nous.
Merci beaucoup.
Merci.
Merci.
À bientôt. Au revoir.
Au revoir.
Et puis à propos de livres, un nouvel ouvrage aujourd'hui dans les kiosques de la collection du Monde, Les grandes idées de la science qui explore la vie des grands physiciens et mathématiciens. Cette semaine, Heisenberg et le principe d'incertitude. Werner Heisenberg a été pendant des années l'un des scientifiques occidentaux les plus redoutés et pour cause. C'est lui qui a dirigé le programme allemand d'armement nucléaire pendant la Seconde Guerre mondiale. Une collaboration avec le régime nazi qui lui a valu d'être emprisonné en Angleterre et qui a eu pour effet d'assombrir un lex-scientifique pourtant extraordinaire. Il a été lauréat du prix Nobel de physique en 1932. Il est à l'origine de la première formalisation de la physique quantique, mais il reste surtout associé au principe d'incertitude qu'il a découvert en 1927. L'observateur postule le scientifique influe sur la réalité qu'il est en train de regarder. Ce principe constitue l'une des grandes avancées de la physique moderne. Il a laissé néanmoins perplexe nombre de ses contemporains, à commencer par Einstein, qui a écrit en forme de protestation « J'aime à croire que la Lune est toujours là, même si je ne suis pas en train de la regarder ». C'est ce que vous allez découvrir donc en lisant Heisenberg et le principe d'incertitude. Le monde existe-t-il quand on ne le regarde pas? Un ouvrage de la collection Grandes idées de la science proposé par Le Monde, donc en partenariat avec La Tête au Carré, à retrouver en kiosque dès aujourd'hui. Bonjour Fabrice Drouel.
Bonjour Mathieu Vidard.
Affaires sensibles dans un instant.
Oui, vous avez parlé de l'INRA là?
De l'INRA?
Ah, j'ai cru entendre l'INRA.
Non, pas
bien,
du tout.
Parce que moi j'ai quatre lettres qui font Iran.
Ah, très bien.
L'Iran qui
vous
a joué.
Vous avec nous?
Voilà, l'Iran qui a joué un grand rôle dans l'histoire que nous allons vous raconter, l'histoire des otages français au Liban en 1985. Jean-Paul Kaufmann, Michel Seurat, Marcel Carton, Marcel Fontaine, notre invité Hervé Guéquer, notre confrère qui lui aussi était pris en otage en Afghanistan.
Affaires sensibles après les infos.